Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. Je suis Mariam Tamoussanang et l'épisode qui va suivre est le premier d'une série féministe que j'ai problématisée, comme à mon habitude, depuis la perspective des Suds en général et des mondes africains en particulier. Ici, on va être très matérialiste et saisir la critique féministe à travers des enjeux économiques. Pour ouvrir cette série, j'ai l'honneur de recevoir Silvia Federici. Dans cet entretien, on aborde la question centrale de l'accès à la terre que Silvia Federici place au cœur de son analyse du système de la dette et de la destruction des communs. J'ai enregistré cet épisode à distance car Silvia Federici réside aux États-Unis. Le son n'est pas toujours très bon, mais j'espère que cela ne vous empêchera pas de suivre jusqu'au bout car c'est véritablement un épisode inédit. Tout d'abord, parce que Silvia Federici est brillante, drôle et généreuse, elle s'exprime ici en français, qui n'est pas sa langue maternelle, et surtout, c'est un épisode dans lequel elle nous livre ce que le terrain africain, expérimenté au début de sa carrière de chercheuse au Nigeria, lui a apporté. Elle nous raconte l'importance de cette expérience de décentrement et comment le contexte du Nigeria, de ses luttes pour la subsistance, du travail communautaire, de la terre comme matrice qui structure tout le travail productif et reproductif, comment tout cela, je cite, « a fertilisé son imagination politique ». Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même. Et avant de lancer l'épisode, je remercie le CCFD Terres Solidaires qui a financé une partie de mon travail de recherche documentaire sur les féminismes africains, ainsi que l'ambassade de France au Sénégal qui a contribué au financement de la production de cette série. Bonne écoute. Bonjour Silvia Federici, merci beaucoup d'être là. Vous êtes universitaire américaine, enseignante et militante féministe révolutionnaire. On vous connaît pour vos travaux sur l'histoire de la transition entre le féodalisme et le capitalisme, restitué dans l'ouvrage Caliban et la sorcière. Aujourd'hui, je vous propose de nous parler de votre dernier livre, Réenchanter le monde, sous-titré Le féminisme et la politique des communs, qui est paru en français aux éditions Entremonde en 2022. Et dans cet entretien, on va se concentrer plus particulièrement sur les deux chapitres africains de l'ouvrage. Dans la première partie de Réenchanter le monde, vous proposez une lecture féministe des mécanismes d'accumulation à l'époque moderne. Vous analysez la mise en place de ces mécanismes dans les sociétés du Sud, en Afrique particulièrement, à travers la question de la dette. Et le chapitre qui s'intéresse aux communs, lui, met en avant les luttes de femmes pour la terre et la reconstitution des communs. Dans ces deux chapitres, ce qui est en jeu, ce qui est au centre, c'est la question de la terre. Qu'elle soit abordée à travers la question de la dette ou bien à travers la question de la propriété foncière individuelle, c'est toujours le même enjeu de la terre qui est au centre, qui est en jeu dans le mouvement des nouvelles enclosures. Alors, c'est le sujet de l'entretien, mais avant d'entrer dans le détail de vos analyses, Silvia Federici, pouvez-vous nous raconter votre expérience africaine au Nigeria, où vous avez enseigné au début de votre carrière, et nous dire ce que ce décentrement a apporté à votre pensée?
Ah. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est un grand plaisir d'être ici. Et alors, bon, je vais chercher à parler français. On va voir si je peux communiquer bien. Alors, mon séjour en Afrique, à Nigeria, dans les années 84, 85, 86, j'ai enseigné à l'université de Port Harcourt dans le delta du Niger. Et a été une expérience qui a changé ma vie. Non, parce que j'étais déjà politicisée, j'avais toute une histoire de gauche et aussi avant tout féministe. Mais cette expérience avait été importante, très importante pour beaucoup de raisons. Avant tout, la période dans laquelle je suis allée à Nigeria, qui était dans les premières années 88. Et j'arrivais dans un moment dans lequel il y avait un grand débat sur la possibilité ou opportunité de prendre une prête du Fonds monétaire international. Parce que, comme nous savons, à la fin des années 70, la fin des années 70 a inauguré la fameuse crise de la dette. qui est une crise qui a été complètement organisée artificiellement par la réserve des États-Unis, la Federal Reserve des États-Unis, qui a, dans 1979, a augmenté la taxe d'intérêt sur le dollar. Alors, tous les pays qui avaient sorti du colonialisme, comme vous savez, qui avaient sorti du colonialisme et qui avaient pris des prêts pour se développer, se sont rencontrés de nouveau endettés in une situation dans laquelle il était presque impossible. Je ne savais rien du Fonds monétaire international ou de Banque mondiale. Bon, il était un nombre que je connaissais, mais très, très, pas bien. Mais tout de suite, en voyant le débat, non, j'ai appris beaucoup de ce débat parce que le débat a fait très clair que les mesures, les conditionnalités qui étaient imposées avec la question de la dette et les conditionnalités qui étaient imposées pour le nouveau prêt, en réalité, étaient mesures de recolonisation. Mmh. Alors ça, j'ai compris que a été en Nigérie, a été dans ma expérience, dans l'université, dans la lutte des étudiants, dans la lutte des enseignants, dans la lutte du syndicat, qui m'ont fait comprendre que nous étions un témoin d'une processus de décolonisation. Non? Que la dette, la création artificielle de la dette, qui a, dans peu d'années, s'est convertie dans une dette mondiale, non? Mm. Qui a affecté tous les pays qui sont sortis du colonialisme. A été une mesure pour une recolonisation, une nouvelle forme de recolonisation, cette fois organisée à travers des instruments financiers. Même si l'aspect militaire était toujours là, hein, mais apparemment surtout avec, bon. Et, j'ai compris aussi qu'est-ce que la dette signifiait, parce que en peu d'années, il a signifié non, la coupure totale de toute mesure une des conditionnalités fondamentales était que les pays endettés devaient éliminer toute subvention sociale à la reproduction sociale. Alors, pas d'investissement dans la santé, pas d'investissement dans les écoles, pas d'investissement dans le transport public, non? Et les années que j'ai passées en Nigeria ont été immédiatement années de lutte, non? Mmh. Années aussi de grandes répressions, non? Dans les universités, dans les écoles, dans la société. Et bon, alors, il a été vraiment une expérience unique, mmh. non? Et nous avons vu bientôt que avec la dette a été une excuse pour obliger sept pays qui sortaient du colonialisme, pas seulement à terminer l'investissement dans la reproduction sociale, mais aussi à ouvrir les portes à toutes les compagnies minéraires, agrobusiness, non, du pétrole.
Oui, les industries pétrolières.
Toujours avec l'idée qui était nécessaire pour payer l'endettement. Alors que la dette a été vraiment un instrument politique très, très destructif. Très destructif. Et c'est là que je vis la face du nouvel ordre mondial. Parce que la décolonisation à travers de la dette, à travers de l'ajuste structurel, a été la fondation, l'élément fondamental mais plus essentiel, non, pour la réorganisation de l'économie globale, non, mm. comme dans le passé, non, au principe du capitalisme, l'esclavage, la colonisation, non, a été la fondation de l'accumulation capitaliste. De nouveau, l'attaque à toutes les formes de reproduction sociale, etc., a été très très fondamentale. Alors ça. Bon, m'a affecté à changer ma politique aussi parce que pour les de 1984 jusqu'à 2004, pratiquement, non? J'ai organisé avec beaucoup de collègues, des étudiants africains, dans le mouvement contre la globalisation et dans le mouvement surtout des étudiants contre la dette, contre la commercialisation de la connaissance, mm-hmm. contre la commercialisation de les écoles, non?
Mm-hmm.
Et a été très, très fort. Bon, je pourrais parler beaucoup, beaucoup, mm-hmm. beaucoup de tout ça. Il a été année de ma vie et d'organisation. Bon, première chose. L'autre changement très fort, l'autre chose que j'ai appris mm-hmm. en Nigérie, très important, a été la question des communes.
Mm.
J'ai rencontré la question des communes en lisant Marx. Non? Marx nous a dit que le capitalisme, non, s'est organisé avec la destruction des relations communautaires, non, relations communautaires de travail de la terre. Il y avait villages, entiers villages, qui avaient ce management de la terre collectivement, même si la terre n'appartenait pas à eux, mais ils la cultivaient et ils avaient l'us de la terre.
Oui,
j'avais cette impression que dans tout le monde, le capitalisme m'avait détruit les communes, que les communes c'était une chose du passé, parce que je connaissais qu'en Europe, il n'y avait pas plus de terres communautaires, non? Je trouvais que jusqu'à aujourd'hui, les seules terres communautaires qu'on a en Europe sont dans les Alpes de la Suisse ou Oui. Mais en Nigérie, j'ai compris qu'en réalité, en Afrique, et je crois que l'Afrique a été le dernier région du monde où le système, le régime communautaire, non, a continué jusqu'au cycle, le siècle XX. Non? Et alors, et cette conversation incroyable dans le département avec mes collègues, les femmes que j'ai rencontrées, je me disais, tu as la terre, ton village? Je disais, non, je n'ai pas de village, non. Elle me disait, mais comment tu peux vivre avec un niveau d'insécurité? Alors, tu dépends complètement de ton salaire. Je disais, oui, nous dépendons complètement, je n'ai pas de terre. Alors, cette idée du village, l'expérience, pour moi, a été une chose révolutionnaire. Comprendre que en Nigérie, jusqu'à ce moment, il y avait millions de personnes qui, même s'ils travaillaient dans la cité, même s'ils travaillaient dans une économie monétaire, mm-hmm. toujours pensaient, lorsque je vais à la retraite, je vais au village. S'il y a une grève, je vais au village. S'il y a le chômage, je vais au village. Le village me va soutenir. Parce qu'il y a une terre communautaire. Tu as grandi, tu es né dans une situation qui est plus protégée. Une situation protégée. Il y a un sentiment de communauté que tu ne penses pas ta vie seulement dans une façon individuelle. Et alors, avec le temps, j'ai commencé à comprendre et à voir comme cette chose fondamentale du village. Qu'est-ce que le village représente? Cette chose fondamentale, non, avait des conséquences dans beaucoup d'aspects de la vie. Dans beaucoup, j'avais toute une culture communautaire. Même si beaucoup de fois, la culture communautaire avait des éléments patriarcales, non? Mm-hmm. Mais qu'il y avait une culture communautaire. Et bon, ça m'affectait beaucoup parce que la question de la lutte pour la reproduction sociale. Comprendre que la lutte, c'est vraiment la lutte pour l'argent, parce que j'avais travaillé dans une organisation pour le salaire pour le travail ménager.
Oui.
Mais aussi pour la terre, aussi pour l'accès direct à beaucoup de formes de subventions, de subsistance directe. J'ai vu quel est le pouvoir d'avoir un accès direct à la terre.
Mm.
La terre signifie la terre. La terre est tout. Moi, je crois que la lutte pour la terre est la lutte plus importante qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Sur ça, je l'ai compris en Afrique et je n'ai jamais changé ma ma opinion sur ça. Et je le peux voir en Amérique latine. Aujourd'hui, terre signifie eau, les mers, terre signifie forêt, terre signifie accès, pas seulement aux choses à manger, mais aussi à tout le monde, des herbes médicales, non? Par exemple, j'ai compris qu'en Nigérie, la gens n'allait pas toujours à la pharmacie à acheter choses pour sa maladie. Parce que, en réalité, la gens connaissait des herbes, connaissait des choses, non, qui pouvaient aller dans un bois, dans une forêt. Donc, et aussi, j'ai compris que dans le monde, surtout en Afrique, la culture de la subsistance. J'avais milité dans cette organisation qui demandait le salaire pour le travail ménager.
Oui, ça c'est wages for housework.
Wages for housework. Parce que non, nous, la situation qui était devant notre yeux, c'était une situation de femmes qui avait seulement deux alternatives. Ou sortir et prendre une autre emploi, ajoutant l'emploi salarié au travail domestique ou être complètement dépendant d'un homme, du salaire du mari, du salaire du père, etc. Non? Alors qu'il n'y avait pas une possibilité de se soutenir directement avec une relation directe à des moyens de subsistance. En Afrique, je vois qu'il était beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient une capacité directe de cultiver parce qu'elles avaient relation avec la terre et pouvait cultiver ce qu'on utilisait pour manger, pour beaucoup de choses. Et aussi, elle pouvait vendre ce qui n'était pas utilisé, le vendre dans le marché local. Alors, tout ça a été vraiment comprendre une possibilité. Et cette expérience, plus tard, années plus tard, je l'ai trouvée aussi dans l'Amérique latine. Parce que surtout dans les communautés indigènes, on trouve beaucoup, beaucoup de régimes communautaires. Par exemple, en Guatemala, dans le nord, il y a tout un régime communautaire de la terre. Alors ça a aussi fertilisé mon imaginaire politique, non? Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler pas seulement de la monétisation, salarisation du travail domestique, mais aussi de l'importance, la subsistance, les communes et le jeu des femmes, non, dans l'organisation du commune.
Non, parce que le rôle des femmes.
Si le travail de reproduction, non, c'est un travail qui vraiment qui nécessite une relation communautaire. Et alors, ça a été une expérience très très forte. Et bon. Pour terminer, ma scène centrale, ce que je vais dire était vraiment central, a été l'encontre avec la lutte des femmes africaines. La lutte des femmes africaines passée et présente. Non? Passée, par exemple, j'ai découvert ce grand épisode de lutte des femmes, de féministes, non? De Aba Women's War, non? La guerre des femmes des Aba, qui a été complètement ignorée.
Ah, je ne connais pas la guerre des femmes.
La guerre des femmes d'Abba. Bon, je vais te conter cette histoire parce que c'est okay. Très forte. Hein? En 1929, l'année de la grande crise financière mondiale, tu sais que bon, dans l'Afrique, traditionnellement, il y a eu une division de mais différente. Pas la même division du travail, mais une division du travail où, par exemple, les hommes ont cultivé des types de végétaux et les femmes des types, non? Et à ce moment, la Nigérie, le sud, était colonisé par l'Angleterre. Et déjà, les cultivations par les hommes étaient sujets à une taxation. Les hommes de Et en 1929, le gouvernement colonial a décidé de mettre une taxe à la cultivation des femmes.
Ah, non? Ok, d'accord. Alors que c'était seulement les hommes qui payaient des impôts auparavant.
Et l'administration coloniale était dans cette cité qui s'appelle Aba, qui est dans le sud, très, très voisine à Portalco, et qui a été toujours une ville, une cité commerciale. Et c'était la place du gouvernement colonial. Bon, et ils ne pensaient pas jamais ce qui allait se passer. Parce que milliers et milliers de femmes, milliers et milliers de femmes ont convergé à la cité et ont fait une siège au gouvernement colonial. Et en démontrant un niveau d'organisation qui les Anglais jamais pouvaient penser. Ils ont été capables d'obliger le gouvernement à éliminer son projet de taxation. Non? L'organisation de cette lutte a été tant grande, tant importante, tant forte, que immédiatement, le gouvernement anglais, cette lutte a été la place de naissance de l'anthropologie africaine sur les femmes, de l'histoire de l'étude anthropologique de la femme africaine.
Comme sujet politique.
Oui. Parce que ils ont décidé d'envoyer des anthropologues anglais à étudier qui sont.
Mais je pense que ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est dans cette lutte que les femmes se sont dévêtues? Elles se sont mises nues?
Oui. Il y a aussi tout. Je ne sais pas si dans cette occasion ou plus récemment. Mais se dénuder est une forme traditionnelle de lutte parce que est connectée à une, comment on dit, curse, à une.
Une malédiction.
Malédiction. Si. Alors, dans la culture, c'est une malédiction pour les femmes, surtout les femmes vieilles, montrer son organe génital aux jeunes, aux hommes. Non? Et c'est une tactique, c'est une stratégie que les femmes ont usée beaucoup, beaucoup de fois. Plus récemment, je crois qu'il fut 2003, 2004, l'on fait dans le sud de la Nigérie, dans une installation pétrolière, parce que le pétrole a détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Niger est un des pays qui a été plus dévasté, plus détruit par l'extraction pétrolière. Non? Par exemple, le delta, qui est une des grandes merveilles du monde, le delta du Niger est une des plus grandes merveilles du monde, a été complètement contaminé parce qu'on a découvert le pétrole et on fait l'extraction du pétrole. Comment on fait l'extraction du pétrole? Toutes les compagnies pétrolières françaises, italiennes, américaines sont là, sont en Nigérie, non? Et on fait une destruction incroyable. Et alors, les femmes ont occupé, milliers de femmes ont occupé une station pétrolière et lorsque les gaz sont venus, elles se sont toutes dénudées. Non, c'est une forme traditionnelle de lutte.
Une protestation.
Et bon, alors ça, c'est ma découverte de lutte des femmes africaines du passé, mais aussi la lutte des femmes africaines dans le présent, non? Parce que, et surtout quand cette lutte a été une lutte pour la terre. Mais je dis dans mon article dans L'Enchanter le Monde, est une lutte qui a eu des grandes contradictions. Parce que, naturellement, la Banque mondiale, non, a cherché de divider les femmes, non, de divider les femmes et user les éléments du patriarcalisme, dans le régime communautaire traditionnel pour déqualifier, non, pour créer un mouvement féministe néolibéral qui voit l'espoir pour le futur dans la décolonisation de la terre. Non? Alors, l'use du élément patriarcal. Par exemple, si les femmes peuvent participer également avec les hommes à les assemblées communautaires, tout ça, non, on usait la Banque mondiale. Alors, j'ai vu vraiment un autre débat, non, et une division dans le mouvement féministe africain, non, où il y avait un mouvement féministe qui était en train de grandir, qui était anticapitaliste, qui était pour la préservation de la terre dans les mains des femmes, non, mais qui ne visait pas à détruire le commun.
Oui.
Qui était intéressé à éliminer les éléments patriarcaux, mais pas en éliminant le régime communautaire. Mais au contraire, non, dans le même temps, you know, il y a eu cette manipulation pour la Banque mondiale de dire, bon, d'user l'intérêt des femmes pour la terre, pour créer un mouvement de femmes de classe moyenne, néolibéral, urbain, non, qui voit dans la néolibéralisation de la terre, dans la démolition, dans la usant, non, qui a usé, non, la critique du patriarcalisme, de beaucoup de régimes communautaires, non, pour produire la commercialisation, la privatisation, la monétisation de la terre même, non? Alors, j'ai vu la question de la terre, par ami, s'est convertie dans une chose fondamentale, non? L'encontre avec femmes, like Wangari Maathai, non? Qui est la Green Belt Movement, de planter, organiser les femmes pour reforester, pour créer une nouvelle forêt, non? Est l'importance de la terre comme élément fondamental de notre capacité d'autonomie. On ne peut pas parler d'autonomie politique, économique, culturelle, si on n'a pas vraiment contrôle sur la terre et le territoire, non? Et que la terre est vraiment tout un système productif. Est la fondation de tous les systèmes reproductifs, non? Alors, ça, pour moi, a été vraiment une part essentielle de ma vision de qu'est-ce que c'est aujourd'hui la lutte anticapitaliste et la lutte des femmes pour la création d'un terrain commun, d'un terrain où beaucoup de mouvements écologiques, féministes, antiracistes s'encontrent, non? En voyant que c'est la même lutte.
Oui.
Même
si
prendre des formes différentes.
Oui, oui. Non, c'est vraiment l'idée, en fait, enfin, par d'autres corpus, là, vraiment à travers la question de la terre en Afrique, de son accès, de son usage, de éventuellement sa propriété et des modalités de cette propriété, que la question, au fond, la question politique de notre époque, de comment est-ce qu'on s'organise socialement, cette question. Ne peut pas faire l'économie de toute la dimension du travail reproductif, mais surtout en fait ça remet vraiment la question de la subsistance au cœur, et ça se vit de manière plus intense sur ces territoires-là où comme tu l'as dit, tout le monde a son village, sa terre, a encore des liens beaucoup plus forts à la subsistance qui sont pas nécessairement intermédiés par tout le salariat, et donc la question elle se pose en fait elle est immédiatement elle intègre cette dimension vraiment de subsistance en son sein, ce qui est plus difficile à voir dans les sociétés salariales.
Oui, ben la question de la subsistance, je veux dire deux choses. Avant tout, que la question de la subsistance, c'est pas seulement le retour à forme, seulement de subsistance. Je l'ai vu dans l'université. Parce que j'ai vu que lorsqu'il y avait des grèves, il y avait beaucoup, beaucoup de grèves. Non? Alors, la possibilité de résister à la grève, la possibilité de résister en coupe salariale, c'était parce qu'on pouvait régresser au village et prendre des jours et régresser au campus, à l'université, non, on n'était pas obligé à ne pouvoir pas manger, ne pouvoir pas. tout ça est très important. Comprendre comment l'accès direct à la terre a été un élément très fort, essentiel pour la résistance dans, aussi dans la lutte salariale, non? Qui n'est pas. Et l'autre chose que je veux dire, est-ce que, bon, je crois que la culture, la vie de village sont avant tout aujourd'hui. J'étais là dans 1984. Alors que la culture du village, je crois, a été beaucoup détruite, non? Il y a été vraiment une grande privatisation des terres. Mais ce qui s'est passé est quelque chose d'extraordinaire, qui est un phénomène global aussi, non? Les femmes, les hommes qui ont été expulsés de la terre, qui ont été obligés à s'urbaniser, ont commencé à approprier la terre urbaine.
Oui.
Quelques types de terres qui n'étaient pas utilisées l'ont usée pour planter des carottes, pour planter des tomates, pour planter des choses, des oignons. Alors, ça, c'est un phénomène, la création d'une agriculture urbaine. C'est un phénomène global. On en dit, par exemple, Kinshasa ressemble aujourd'hui à un jardin, non? Parce que dans tous les lieux, on va chercher de s'approprier. Et nous avons vu aussi dans les États-Unis et en Europe, non, le phénomène des jardins urbains qui sont jardins végétaux, ne sont pas jardins pour les fleurs, sont jardins pour planter des choses à manger. Cette nouveauté vient du sud, non? Est venue, a été portée par les immigrantes de l'Amérique latine, de l'Afrique, non? Alors, la culture, on a dit que nous sommes en train de vivre la fin de la coupure entre l'économie urbaine et l'économie rurale. Il y a des économistes, des activistes africains qui ont parlé d'une urbanisation, non? La culture, la vie urbaine a été ruralisée, non? Parce que cette présence très forte de cultivation de la terre et des activités typiquement rurales dans la cité, dans les villes, non? Alors que l'économie de la terre, plus en plus, qui n'est pas suffisant parce que l'accès à emploi, au salaire, à relations monétaires est très, très limité, non? Et alors, ça. Je crois que tout ça a été une norme, a changé vraiment beaucoup de ma imagination politique sur ce qu'il est possible, ce qu'on peut faire, quels sont les différents chemins pour une différente société, une société plus juste, une société où nous ne sommes pas dépendants non, de la production capitaliste. Et voir que les femmes sont fondamentales pour cette femme qui va cultiver, c'est la femme qui a cette nécessité de la subsistance. Avant tout, parce que les femmes n'ont pas une relation directe à l'argent. S'il y a de l'argent, c'est toujours les hommes qui ont une relation à l'économie monétaire, pas la femme. Alors, c'est pour ça. Mais aussi le travail de reproduction. C'est un travail qui nécessite communauté, qui nécessite collaboration, non? Qui se nourrit dans les générations après les générations. Sa nourriture a été un interchange, exchange.
Oui, un échange.
De connaissances, de choses. Oui,
et c'est ce que tu dis à la fin du livre, enfin du chapitre, c'est que, en fait, ces formes, ces pratiques-là, tu citais l'appropriation des terres urbaines, tu en parles dans les termes d'action directe, que ça reste une action politique et que ça implique une toute autre grammaire du changement social, de la transformation. Tu cites l'intellectuel Fantou Chérou qui parle de révolution silencieuse. Et c'est vraiment cette idée qu'en fait, quand on commence à adopter cette grille de lecture, voilà, de comprendre que c'est vraiment l'enjeu de l'accès à la terre, au partage des ressources, qui est en jeu dans différents types de phénomènes ou des mécanismes comme celui de la dette, qui sont que tu en as parlé vraiment au début, donc je pense que c'est pas la peine qu'on revienne et qu'on redétaille sur ça, mais c'est l'Afrique comme territoire de résistance et en même temps comme territoire d'expérimentation, de reconstruction aussi de ces pratiques, de ces communs ou de d'autres manières de refaire refaire communauté même au cœur des villes.
Au cœur de verre. Et je crois que c'est très, très important. Ça, je veux le souligner. Parce que tu sais que l'année passée, les Nations Unies ont déclaré que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la plupart des gens du monde sont dans
urbain,
dans un milieu urbain, non? Et il y a été une célébration parce qu'on dit que la vie urbaine donne plus de possibilités. Pour moi, c'est exactement le contraire, non? Ce que je l'interprète, que le capitalisme international a un intérêt très, très direct à expulser tous les gens d'un accès direct à la terre. Si tu vas rester à la terre, tu vas rester comme emploi salarié, très discipliné, très contrôlé, très limité. Mais la direction est d'obliger tout le monde à se urbaniser. Parce que lorsque nous sommes complètement organisés, le capitalisme peut contrôler les éléments fondamentaux de la reproduction sociale. Comme je dis, les eaux, la terre, le manger, non, les forêts, le climat, toutes choses, les mers. Alors, non, on doit repenser de nouveau qu'est-ce que c'est la richesse réelle. Qu'est-ce que c'est? Le capitalisme le sait très, très bien. Beaucoup de fois, nous l'avons oublié, mais le capitaliste connaît très bien que la terre est le grand magasin d'où elle s'approprie, vont s'approprier de toutes choses. Non? Et alors, cette lutte pour continuer un lien direct, le contrôle, la capacité de pouvoir user, lutter contre la déforestation, contre la contamination des mers et des eaux. Ce qu'ils ont fait, par exemple, au delta du Niger, c'est une abomination réelle, non? Je crois que c'est la lutte, et pas accidentellement, c'est la lutte plus sanglante, plus féroce qu'il y a dans le monde. Les conflits sur la terre qui ont été instigés par les compagnies commerciales, pétrolières, minérales, etc. sont les luttes qui ont coûté plus de morts dans le monde, toujours. Même les luttes qu'on fait en Palestine sont luttes vraiment pour le contrôle de la terre. Bon, je écris aussi dans un de mes livres que nous avons vu un retour de chasse à sorcières, organisée, surtout instigée pour sectes évangélistes, non, les nouveaux missionnaires. Je dis que, comme dans le passé, comme au principe du capitalisme, non, il y avait, on dit, l'épée et la crosse, la croix, non,
oui.
La religion et l'armée, non, les conquérants. Et le prêtre, non, le priest, comme on dit.
Oui, le prêtre.
Et aujourd'hui, l'entrée féroce du Fonds monétaire international et de Banque mondiale, non, dans tous les territoires, une fois colonisés, l'Afrique, l'Amérique latine, part de l'Asie, non, a été accompagnée pour cette invasion du sept évangélistes, non, qui ont diffusé une christianité très, très non, calviniste, non? Qui introduit de nouveau dans le langage religieux la question du diable, de la sorcellerie, etc., qui ne sont pas une chose traditionnelle africaine, non? Mais le diable, aujourd'hui, on dit qu'il y a une conspiration satanique. Si tu es pauvre, c'est le message. Si tu es pauvre dans un village africain, n'est pas parce que tu as perdu ta terre, c'est pas pour le Fonds monétaire international, mais parce qu'il y a des gens dans la communauté qui sont en train de conspirer contre toi. Non? Alors, il a été un instrument de très fort pour diviser les gens, non? Et aujourd'hui, nous voyons que cet texte évangéliste, non, a grandi et a commencé à accuser pas seulement les femmes, non, d'être sorcières, causant milliers de morts, d'exécutions, mais aussi a commencé à accuser les enfants d'être démonisés. Et la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup des enfants qui vivent dans la qui sont été expulsés, non, par la famille et qui vivent dans la rue ou ont été torturés avec des procédures pour les dédémoniser, non? Et tout ça, je crois, a à faire avec la question de la terre. Il y a vraiment un grand investissement du capitalisme international pour expulser, pour privatiser, commercialiser, mettre les terres de l'Afrique bas du contrôle, le contrôle des compagnies commerciales du grand régime capitaliste. Alors, l'Afrique, qui est la région où la lutte pour le direct accès à la terre a été plus forte et a continué jusqu'à notre jour, accidentellement, est une région qui a vraiment été martyrisée, est martyrisée aujourd'hui. On voit ce qui se passe dans le Soudan. Nous voyons beaucoup la Palestine, justement, mais le Soudan, la Libye, ce qu'on a fait en Libye, ce qu'on a fait dans le Congo, millions ont mort dans le Congo, non? Et tout ça, c'est pour extraire toute la richesse, cette incroyable richesse minéraire et aussi une richesse naturelle, des plantes, je n'ai pas tous les mots, mais bon. Et je vois l'attaque à les enfants, l'attaque à femmes est vraiment connectée à ce processus qui a deux couteaux pour l'expropriation des terres, le corps commercial des terres et pour la division, la destruction de la solidarité communautaire. La destruction du lien communautaire qui ont été traditionnellement une source de grande capacité de résistance. Le commun, partager la cultivation communautaire de la terre, non, a aussi grandi la capacité de résistance, la solidarité. En Afrique, j'ai expérimenté ce que signifie vivre une vie où tu ne penses pas seulement en forme individuelle, non? Mais pense toujours dans une collectivité. Avec des problèmes, naturellement. Mais dans un bon collectif de résistance, non? Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est ce que j'ai cherché de communiquer et de penser. Que pouvons-nous apprendre pour notre lutte, non? Pour notre lutte, surtout dans le mouvement féministe.
Tu en as parlé dans ton introduction, cette idée que la dette a été utilisée comme un instrument au service de la rationalisation de la propriété foncière. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et expliquer pourquoi? Est-ce que vraiment, toi, ton analyse, c'est que les décennies des politiques d'ajustement structurel ont eu comme objectif principal et premier de mettre fin au système foncier communautaire africain?
Oui, exactement. Alors, la dette. Le pays a une dette, non? Bon, maintenant, naturellement, la dette a deux niveaux. La dette nationale et la dette individuelle. Mais ils sont très connectés. Parce que lorsqu'il y a une dette nationale et toutes les formes de subventions sociales sont coupées, alors l'agent doit pour aller à l'école, pour aller à la santé, l'agent doit prendre une prêt. Alors, la dette a été un instrument politique, une stratégie, non? Parce que, avant tout, a obligé le gouvernement, les a obligés à ouvrir l'économie nationale, à changer la direction de l'économie nationale, à transformer l'économie nationale dans une économie organisée pour l'exportation, comme il était pendant le régime colonial.
Mm.
Et alors, ça signifie couper toutes les subventions sociales. Et un deuxième lieu, je ne sais pas si c'est deuxième, mais les a obligés à ouvrir les portes à toute compagnie commerciale, non, qui ont pu s'approprier de la richesse de l'Afrique complètement et ont laissé un pays, continue de le laisser, parce que ce n'est pas fini, non, complètement détruit écologiquement. La Nigérie est un bon exemple, mais pas le seul. Par exemple, la région pétrolière a été complètement dévastée par la contamination, par cette façon vraiment irresponsable d'extraire le pétrole. Non? Naturellement, il y a eu beaucoup de mouvements de résistance, alors c'est important de ne pas l'oublier, qu'il y a une résistance très, très forte aussi. Et l'autre aspect de la dette est le microcrédit. Non? Le microcrédit aussi est une stratégie internationale. Il y a, je parlais de deux niveaux, non, le niveau national qui non, a signifié pratiquement non, l'ouverture, la vente du pays,
oui,
mais aussi l'introduction dans l'Afrique, comme dans toute part du monde, du microcrédit, non, qui a été vendu comme la solution à une situation de la pauvreté des femmes, qui est un mensonge, est une chose vraiment un mensonge, parce que d'où vient la pauvreté? La pauvreté vient de femmes qui ont été paupérisées, qui ont été expulsées de la terre, qui ont été colonisées. Alors, non, c'est le remède pour la pauvreté, une pauvreté qui a été créée artificiellement.
Mm-hmm.
Bon. Et le microcrédit, c'est vraiment une forme d'organiser l'économie domestique, c'est une forme d'exploiter les femmes, parce qu'on a compris que les femmes sont les plus responsables envers la dette.
Mm-hmm.
Que les femmes sont capables de ne pas manger, mais elles vont payer la dette. Donc, le microcrédit a été vendu comme la grande solution. Mais qu'est-ce que signifie? J'ai écrit dans le livre, pas seulement moi, mais beaucoup de femmes. Maintenant, il y a toute une lecture féministe de la dette.
Mm-hmm.
Finalement, dans le mouvement féministe, la dette s'est transformée dans une question politique et un terrain d'organisation féministe. Parce que, au-delà du microcrédit, la plupart des femmes dans le monde aujourd'hui, femmes prolétaires, femmes même qui ont un travail, pas seulement ménager, mais un travail salarié, ont une grande dette.
Oui.
Parce que les emplois qu'elles peuvent acquérir sont emplois qui ne donnent pas d'autonomie financière et les obligent aussi à prendre un prêt. Mmh. Mais le microcrédit est particulièrement destructif, non? La finance internationale a appris à étudier le comportement des femmes, surtout en Afrique, parce qu'il y avait une usance très vieille. C'était ça. Non, parce que les femmes africaines, non, la plupart des femmes n'avaient pas un accès direct à la banque, au système monétaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait le système des tontines.
Mm-hmm.
Le système des tontines, c'est que groupe de femmes, chaque semaine, donne un petit argent, non? Et périodiquement, la femme qui a nécessité d'argent va prendre non, ça parle de l'argent.
Mm-hmm.
Alors, c'est un système bancaire, mais pas contrôlé par la banque, mais contrôlé directement par les personnes qui le vont utiliser. Et c'était un système managé par les femmes. Alors, je crois qu'ils l'ont compris bien. Ils ont développé cette idée. Ah ah, nous vamos, non, ils ont fait toutes les célébrations, la fin de la pauvreté des femmes, nous vont d'elles donner la pauvreté des femmes et qu'ils n'ont pas, et c'est un grand mensonge, accès à un peu d'argent. Un peu d'argent va changer la vie des femmes. Nous voyons aujourd'hui que les femmes qui ont pris cette prête, aujourd'hui, sont dans une situation pire, worse, que passé. Parce que maintenant, beaucoup d'elles sont complètement endettées, ne sont pas capables de payer la dette et ont été obligées à vendre les petites choses qu'elles avaient. Surtout si elles avaient un peu de terre ou accès à de la terre, et beaucoup de fois, elles ont été obligées à vendre ce qu'elles avaient. Mm-hmm. Non? Bon, il y a toute une littérature qui va démontrer les conséquences très, très néfastes du microcrédit. Pas seulement en Afrique, mais aussi dans l'Amérique latine. Non? Alors, en réalité, ce qui s'est passé avec le régime de l'ajuste structurel sont vraiment des formes prédatoires, d'économie prédatoire. Mm-hmm. Qu'on voit une situation aussi de guerre permanente. Que la violence militaire, des gardes de sécurité, toutes les compagnies pétrolières ont des gardes. La violence a augmenté incroyablement. Parce que tu ne peux pas priver millions de personnes de ça, une moyenne de subsistance. Mm-hmm. Et le réduire dans une situation de dépendance, être obligé à la migration. Parce que les grands flux migratoires viennent de là, qui l'ont coupé les possibilités de se reproduire dans le pays de naissance, dans le pays d'origine. Non? Mm-hmm. Tout ça est connecté. Tout ça est connecté. C'est pour ça que je disais que la Palestine est le monde. Non, parce que si on va voir ce qui s'est passé en Afrique dans les derniers 40 ans, on peut voir vraiment non, expulsion, guerre, torture, paupérisation dans des pays qui sont extrêmement riches, qui sont les plus riches du monde comme richesse minérale et richesse naturelle. Bon, c'est ça.
Non, merci beaucoup, Sylvia. Merci beaucoup pour ton regard et ta grille d'analyse de ces phénomènes, que ce soit celui de la dette et celui de, enfin, l'enjeu de la reconstruction des communs sur le continent africain.
Je veux seulement ajouter qu'aujourd'hui, heureusement, nous avons un mouvement féministe international qui a compris ça, qui comprend qu'il n'y a pas un changement de la vie des femmes ou la lutte contre le paternalisme, si nous ne voulons pas changer le monde, non, le système social. Que la justice sociale n'est pas, il n'y a pas de compromis avec le capitalisme. Et surtout, il y a une lecture féministe et une organisation féministe contre la dette, contre le système de la justice structurelle du Fonds monétaire international et aussi contre la évangélisation. Qui est une fascistisation et surtout concentrée sur les disciplines des femmes. Et si, je crois que c'est très important pour moi de dire qu'il y a un mouvement croissant de compréhension de cette réalité et de créer des fonds d'organisation internationale. Qu'il y a un nouvel internationalisme qui va de l'Amérique latine, des États-Unis à l'Afrique. Donc, sur le thème de la dette, de l'écologie, de l'expulsion de la terre, le droit, la lutte des femmes pour la terre et contre le féminisme néolibéral. Si.
Ben, merci beaucoup d'avoir fertilisé notre imaginaire politique et d'avoir réussi à mailler toutes ces différentes questions ensemble. C'est vraiment un grand honneur et vraiment une grande joie d'avoir pu échanger avec toi. Merci beaucoup.
Merci à toi, Marie. Merci à toi.
Merci à toi.
On t'embrasse.
Merci, moi aussi. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous le partagerez autour de vous. Afrotopique est un podcast indépendant qui a envie de le rester. Si vous aimez mon travail, soutenez Afrotopique avec un don ponctuel ou régulier, c'est la condition de sa durabilité. Je mets le lien en description. Vous pouvez également soutenir le podcast en mettant des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite, cela permet d'améliorer le référencement. Afrotopique est à retrouver sur Instagram et si vous souhaitez être tenu informé des événements publics et de la sortie des épisodes, je mets également le lien vers la newsletter en description. À bientôt !